Bonsoir à tous. Merci d'être venus quand même relativement nombreux pour parler des sols. C'est pas toujours un sujet évident, les sols, pas très médiatique, même si on en parle de plus en plus. Et donc ce soir, on va essayer d'échanger sur ce sujet. Donc bien sûr sur les sols, mais l'écologie des sols et l'écologie des sols dans un contexte de société humaine. Alors je travaille à l'INRA, je suis pas agronome, hein, j'ai une formation d'écologie, parce que l'INRA, il y a quelques années, a investi justement sur l'écologie pour faire cette fameuse transition agroécologique. Donc on va voir un petit peu dans ces sols qui pour la plupart sont agricoles, comment on peut essayer de combiner les activités humaines, notamment celles de l'agriculture, avec l'écologie et toutes les thématiques que l'on a en ce moment, changement climatique, perte de biodiversité, etc., etc. Merci pour l'invitation ici, c'est une superbe salle. J'ai l'impression de célébrer un mariage quand je suis dans une salle comme ça. Alors c'est peut-être le mariage de l'agronomie et de l'écologie, justement, donc on verra. Mais en tout cas, oui, et puis c'est toujours agréable quand on est sur Dijon, même si je ne suis pas originaire de la Bourgogne, de descendre dans le sud et de revoir un peu le soleil et des températures sympathiques. Voilà, donc je vais commencer. Alors, on m'a dit, la commande, c'était de faire une conf grand public, tout public, donc je vais commencer relativement large. Et pour vous dire, même si certains d'entre vous savent sûrement ce qu'est déjà un sol, mais à quoi correspond le sol? Et je vais avoir une vision, pas trop technique, mais une vision, justement, de différentes parties prenantes, notamment quand on discute avec des géologues qui ont une vision globale de la planète. Pour eux, le sol, c'est une couche insignifiante à l'échelle de notre planète, puisqu'elle correspond quelques centimètres, des fois quelques mètres, des fois pas de sol, à la surface de la croûte terrestre. Donc eux, quand ils étudient toute la planète, le sol, c'est quelque chose de relativement insignifiant en termes d'épaisseur et de volume. Si on discute cette fois avec des pédologues, dont le métier principal, c'est d'étudier les sols, eux, ils ont une vision un peu différente parce qu'ils le regardent d'un peu plus près. C'est une matrice hétérogène, c'est même la plus hétérogène et la plus structurée de notre environnement. C'est une matrice très, très complexe. Elle est structurée verticalement, elle est structurée de façon aussi horizontale, et puis elle se structure ou elle se déstructure aussi dans une dimension temporelle. Donc là, on voit une profondeur de sol assez importante, avec un horizon un peu foncé à la surface, qui est généralement plus riche en matière organique. On aura l'occasion de rediscuter un peu du carbone et de son stockage. Et puis après, le carbone est surtout stocké à la surface, et en dessous, on a plutôt un horizon, une couche minérale ou encore un peu organominérale. Et puis, si on regarde un peu plus précisément avec un zoom, eh ben, ce sol, qu'est-ce que ça donne à une petite échelle, à l'échelle du millimètre, voire même des fois du micromètre? Ben, c'est des particules qui s'associent et qui font des agrégats avec de la porosité, du vide, du plein. Des fois, dans le vide, il y a de l'eau. Et c'est ce vide qui fait des habitats, notamment pour les organismes du sol. Alors, on va parler beaucoup de bactéries et de champignons parce que c'est ma spécialité, mais les vers de terre, les collemboles, toute la diversité du sol habite dans ce vide. Et quand ce sol, quand ce vide n'existe pas, quand le sol est tassé, notamment par certaines pratiques agricoles ou certains passages d'engins, eh ben, on n'a plus ce vide, donc on n'a plus d'habitat et donc on n'a plus d'organismes vivants dans le sol. Et on a une perte de biodiversité. On a aussi une vision très utilitariste du sol, qui est historique, hein. Bon, déjà, on marche dessus, ça paraît anodin, mais c'est vrai, et c'est important qu'on puisse marcher sur quelque chose de stable. Pour l'agronomie et pour notre alimentation, bah, c'est un support de production. Et on a longtemps considéré le sol en agriculture comme simplement un support inerte de production, dans lequel on mettait des engrais, des pesticides, et puis tout marchait bien. Et on se rend compte de plus en plus que bah, ça ne marche pas si bien, et puis il y a une empreinte environnementale importante. Donc c'est aussi un support vivant dont on peut utiliser le côté biologie pour améliorer les productions agricoles. Et puis aussi, bien sûr, c'est un support de construction. C'est là-dessus qu'on fait, nous, nos habitats. Et si le sol est de mauvaise qualité, eh ben, nos supports de construction n'est pas de bonne qualité et ça ne tient pas bien. Et puis enfin, pour finir sur un peu ces différentes définitions du sol, on a aussi une vision culturelle du sol qui est plutôt négative. Parce que quand on parle de sol, dans notre éducation, même si ça change un petit peu, ben, c'est un environnement inconnu qui est sale, qui est plein de microbes. Et bien sûr, les microbes sont tous nocifs, alors que c'est une toute petite part de la diversité microbienne du sol qui est pathogène. Et en plus, il est inaccessible. Il y a une question, voilà, d'inconnu, d'inaccessibilité qui fait qu'on en a peur. Et en plus, si on rajoute à ça, bah, historiquement, on enfouit nos déchets dans le sol. Donc ça rajoute un côté péjoratif à cette matrice environnementale. On enterre nos morts dans le sol. Donc là, il y a aussi une image un petit peu, pas négative, mais culturelle assez forte. Et puis, si on reprend un peu la définition du sol, la mythologie, quand on regarde, bah, c'est dans le sol que se trouvent les enfers. Et Hadès, qui était le gardien des richesses de la terre, est vite devenu le gardien des enfers, hein, dans la mythologie grecque. Donc on associait le sol à quelque chose d'infernal et de négatif pour l'homme. Voilà. Et puis je vais finir, bah, par ce qui nous intéresse ce soir, et la vision que je porte un peu plus, c'est la vision des écologues. Et un sol, c'est quoi? Eh ben, c'est déjà une énorme diversité d'organismes qui l'habitent, avec des différences de taille. Les plus petits organismes sont les bactéries, même si on a aussi des virus qui sont encore plus petits. Mais on va plutôt parler de bactéries, qui on a l'échelle du micromètre, donc un millionième de mètre. Après, on passe sur des choses, on a les champignons, un peu plus gros, la microfaune, avec les protozoaires, les nématodes, la mésofaune, avec les anchitrées, les diptères, et puis on arrive là, les collemboles, des choses qu'on commence à pouvoir voir à l'œil nu, on n'a pas besoin de microscope ou de loupe, les vers de terre, qui sont fortement connus hein, chez les citoyens, et notamment chez les agriculteurs, parce que c'est un synonyme de bonne qualité biologique du sol quand on a des vers de terre dedans. Et puis des choses encore un peu plus grosses, les organismes fouisseurs, les mammifères, et puis bien sûr la plante qui fait partie du sol, notamment par son système racinaire. Donc une grande diversité de taille, une grande diversité de formes, et aussi une grande diversité de ressources génétiques. Dans tous ces organismes, on a énormément de gènes différents, et ces gènes codent des fonctions, et donc le sol aussi est un énorme réservoir génétique, et donc de fonctionnement, ce qu'on a appelé plus tard le fonctionnement biologique. Je vous ai mis quelques petites photos d'organismes bizarres que l'on peut rencontrer dans le sol si on est relativement équipé. Vous avez le tardigrade en haut à gauche, qui est un organisme assez mystique et qui existe dans le sol. Les acariens, les nématodes, qui sont des vers microscopiques qu'on connaît beaucoup dans le monde agricole parce que certains sont pathogènes végétaux, mais il y en a des très bénéfiques aussi qui permettent la fertilité du sol. Et puis les collemboles, qui sont des organismes aussi importants en termes de fragmentation, dégradation de litière. Le sol est un réservoir de diversité, et cette diversité, avec aussi sa qualité physico-chimique, va remplir des services, va fournir des services, et quand on parle de services, c'est des services pour les sociétés humaines. Vous avez une planche de la FAO qui décline un peu ces différents services. Alors si on les prend un petit peu par groupe, hein, pour ne pas les faire un par un, on a des services de fourniture, notamment d'aliments, de fibres, de combustibles, d'éléments nutritifs pour la production végétale, d'habitats, on fournit des habitats pour une multitude d'organismes, composants pharmaceutiques et matériel génétique. Il y a tout un pan depuis une vingtaine d'années qui recherche des gènes nouveaux dans le sol pour trouver des nouvelles molécules en pharmacie, en cosmétique, en santé. Fondement pour les infrastructures, fourniture de matériaux de construction, les argiles, les minéraux, etc. Et puis aussi, quelque chose qui n'est pas une fourniture, je reviendrai après, j'allais un peu plus vite. Après, on a des services de régulation. Donc, le sol fournit énormément de choses, mais aussi il va réguler toute la biosphère, séquestration du carbone, et changement climatique, régulation du climat, ça c'est des choses qui sont très prégnantes en ce moment parce qu'on a un problème de dérèglement climatique, et le sol est un des bras de levier pour essayer de faire la mitigation des changements climatiques, purification de l'eau et réduction des contaminants du sol. On oublie souvent que le sol est un énorme filtre qui dépollue ce qu'on met dessus avant d'arriver justement aux eaux aux eaux d'alimentation, justement, des eaux potables. Donc le sol est véritablement un filtre et dépollue l'environnement. Et puis aussi, régulation des crues. On voit qu'on a d'énormes problèmes en ce moment avec des problèmes de crues, d'intempéries qui deviennent très intenses sur des petites périodes. Et donc le sol, s'il n'a plus ses capacités d'incorporation de l'eau, n'aura pas des problèmes de régulation de crues ou d'inondations. Et puis, quelque chose qu'on oublie aussi, c'est un patrimoine culturel dans le sol. C'est un peu notre mémoire historique de tout ce que notre histoire a pu accumuler. Si on chiffre ces services, en termes économiques, parce qu'on aime bien monétariser ça, c'est 20 000 milliards, c'est 20 milliards de milliards de dollars par an. C'est-à-dire que si on perd ces services, ça coûte à la société 20 milliards de milliards de dollars par an. Voilà. Et autre chiffre très important, 95% de nos aliments proviennent du sol, de façon directe ou indirecte. Bien sûr, on a les productions agricoles, mais on se rend compte aussi qu'en système côtier, les poissons sont alimentés par des particules minérales qui viennent de l'érosion des sols et qui arrivent dans les systèmes côtiers. Voilà. Quand on a fait le barrage sur le Nil, on a baissé de 80% la pêche à la sardine dans le système côtier de l'Égypte parce qu'il y avait un manque d'alimentation en particules minérales qui étaient transportées par le Nil et qui venaient du sol. Donc presque 100% de nos aliments viennent de façon directe ou indirecte du sol. Alors maintenant qu'on a fait un peu ce descriptif, l'image n'est pas très positive, mais on va regarder si le sol, c'est un écosystème en danger. Et puis on va en profiter pour faire un petit état des sols en France, pas qu'on commence à avoir des données à l'échelle nationale sur l'état de nos sols et des différents services qu'il est capable de rendre. Alors on a listé à l'échelle internationale 8 grandes menaces sur les sols. Si je les prends pas par ordre hiérarchique, on a la perte de matière organique, la salinisation, on en est plutôt dans des zones arides, glissement de terrain, inondation, tassement des sols, perte de biodiversité, érosion, contamination, donc pollution, et puis artificialisation. Derrière artificialisation, on entend surtout l'imperméabilisation des sols, notamment par l'expansion des villes, voilà, qui viennent couvrir les sols. Alors, on va les prendre pas un par un, parce qu'il y en a un peu beaucoup, et on n'a pas trop de temps, mais je vais en illustrer certains. Par exemple, la pollution. En France, il y a une dizaine d'années, on avait à peu près 4000 sites pollués qui étaient référencés à l'échelle nationale. Mais quand on parle de sites pollués, ce sont des sites essentiellement industriels ou urbains qui ont été vraiment déclarés comme pollués et soumis à rémédiation. On n'a pas du tout référencé les sites agricoles. Et il y a sûrement énormément de sols agricoles ou de surfaces agricoles qui sont aussi pollués, soit par des métaux lourds qu'on utilise en agriculture, soit par des pesticides. Alors on a des cartes de France, parce qu'on aime bien faire des cartes. La carte du plomb, voilà, en France, même si le plomb on n'en met plus dans les essences et qu'on l'utilise plus trop, eh ben on voit que les zones d'accumulation de plomb sont historiquement et encore actuellement les zones où se trouvent les grandes villes ou les grands carrefours routiers. Et même si ça fait 20 ou presque 30 ans qu'on n'a plus de plomb dans l'essence, le plomb reste accumulé au niveau du sol et stabilisé dans le sol. Au niveau agricole, il y a un métal qu'on aime bien utiliser dans le monde agricole, c'est le cuivre. Parce que c'est un métal lourd qui a une certaine toxicité sur des pathogènes champignons, notamment au niveau de la vigne sur le mildiou. Et si on regarde la carte du cuivre et les zones d'accumulation de cuivre dans les sols à l'échelle nationale, eh ben on retrouve les grands vignobles français. On en trouve en Alsace, on en trouve dans la vallée du Rhône, dans le pourtour méditerranéen, dans le Val-de-Loire et dans le Bordelais. Voilà pour tout ce qui est pollution, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Autre gros risque pour le sol, les processus d'érosion, c'est-à-dire qu'on perd le sol. Le sol n'est plus stabilisé et s'il n'a pas de couverture végétale et qu'il est déstructuré, quand il y a des grosses pluies et en plus qu'on est en pente, le sol va partir et on va perdre le sol présent. Vous avez une image assez emblématique là. Vous avez la carte de France des risques d'érosion, voilà, l'échelle nationale, avec plus c'est rouge, plus on a un risque d'érosion fort. C'est dû à une typicité de sol, mais c'est aussi dû à des modes d'usage que l'on applique sur le sol, notamment par exemple le labour. En France, on a à peu près 20% du territoire qui est soumis à l'érosion. On est un peu en dessous de la moyenne internationale, la moyenne mondiale, où on est à 30%. C'est pas pour ça qu'il faut s'en satisfaire. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que si on perd un sol et qu'on compte sur la pédogenèse pour refaire un sol, c'est-à-dire l'altération de la roche-mère par le climat, les activités humaines, on gagne 0,05 mm de sol par an. C'est-à-dire que pour reconstruire un sol de quelques dizaines de centimètres, il faut à peu près 10 000 ans. C'est-à-dire que si vous perdez un sol, par exemple si un agriculteur a un gros processus d'érosion, eh ben, il va mettre plusieurs générations à récupérer son sol de façon naturelle. Alors le processus d'érosion, ce n'est pas un phénomène moderne. Vous avez une gravure du Moyen-Âge où on avait déjà des gros processus d'érosion, parce qu'à l'époque, on faisait déjà certaines bêtises en agriculture par rapport notamment à la gestion de la qualité du sol. Ils comptaient pas sur la pédogenèse, c'est un peu la gravure ce qu'elle illustre, c'est qu'ils remontaient le sol à dos d'âme, ils mettaient le sol voilà, dans des paniers sur le dos et ils le remontaient du bas de pente en haut de pente et ils remettaient du sol et ils replantaient et ainsi de suite, ils faisaient ça. Ça, c'est un système viticole en Bourgogne. Des fois, ils allaient chercher du sol dans la plaine et, parce qu'ils trouvaient que le sol était de meilleure qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Bourgogne, on vous parle de l'effet terroir sur les grands vins. Et des fois, il y a du sol qui n'a rien à faire là et qui n'est pas du tout de la côte viticole. Bon, je ne le dirais pas en Bourgogne, même si ça sert un petit peu, mais voilà. Autre illustration, l'érosion dépend du mode d'usage. C'est vrai qu'il y a des sols qui sont plus ou moins sensibles à l'érosion parce qu'ils sont plus ou moins stables. Mais voilà, ici, vous avez... Alors, c'est pas très loin d'ici, c'est sur l'île de Porquerolles. Vous avez des modes de sol que l'on trempe dans un petit pilulier avec de l'eau et on regarde en fonction du temps comment cette mode de sol va se désagréger. Vous l'aurez en vidéo pour un autre exemple un peu plus loin. Et vous voyez qu'au bout, généralement, on laisse 5 minutes cette mode. Et là, c'est une mode du sol de forêt qui est en arrière-plan de la photo et qu'au bout de 5 minutes, la mode commence à se désagréger, mais le sol est relativement stable par rapport à son immersion dans l'eau. Si on prend le même sol à côté, mais qui est sous la vigne et non plus sous la forêt, ben voilà ce que l'on obtient, non pas au bout de 5 minutes, mais au bout de 40 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 40 secondes, la motte de sol est complètement désagrégée, le sol est complètement déstabilisé, et si c'était en pente avec une forte pluie, le sol dégringolerait en bas de la pente. Voilà. C'est le même sol d'un point de vue physico-chimique, la grosse différence c'est son mode d'usage. Il y en a un qui est sous forêt, avec des racines qui vont tenir le sol, avec un taux de matière organique aussi très important qui va permettre l'agrégation, la structuration du sol, alors que sous vigne, ben généralement sous vigne on a les ceps et pas grand-chose, entre les ceps de vigne, on le voit bien, et puis on a aussi une déperdition très importante sous vigne du taux de matière organique, c'est connu, hein, à force de labourer, de mauvaise couverture des sols, on perd de la matière organique, et c'est cette matière organique qui fait le ciment des particules de sol pour faire son agrégation et qui fait sa stabilité structurelle. Voilà. Donc le même sol, en fonction de son mode d'usage, eh ben, il peut être plus ou moins altéré ou plus ou moins soumis à des processus d'érosion. Autre problème, l'artificialisation des sols, donc cette fameuse expansion urbaine qui a explosé dans les années 70, 80, 90 et qui continue encore aujourd'hui. Donc l'imperméabilisation des sols due au bétonnage, aux routes, voilà, à toutes les constructions dues aux activités humaines. Des chiffres qui sont assez alarmants, puisqu'on imperméabilise encore aujourd'hui 55 000 hectares de terres agricoles par an, ce qui équivaut à peu près à un département, la surface d'un département français tous les 7 à 10 ans. 7 à 10 ans, c'est que ça dépend de la taille du département. Et globalement, c'est 26 mètres carrés par seconde. C'est-à-dire que le temps de dire ça, globalement, cette salle, elle est imperméabilisée. L'équivalent de cette salle en surface est imperméabilisée. Donc on a encore un processus d'expansion urbaine et on perd du sol, parce que non seulement on met du béton dessus, mais en plus on enlève la fameuse terre végétale qui est fertile. C'est-à-dire que si un jour on désimperméabilise, on n'aura plus le sol. On n'aura plus le sol, ce qu'on appelle la terre végétale qui est fertile et qui permettrait de faire pousser des végétaux. Il faudrait ramener du sol. Voilà. Donc on a un problème d'artificialisation et d'imperméabilisation des sols en France et dans tous les pays industrialisés. Autre gros problème qui va nous intéresser un peu plus pour les changements climatiques, on a une baisse de la teneur en matière organique dans les sols en France et notamment dans les sols agricoles. Quand on déforeste pour passer en système agricole, grande culture ou autre, on va perdre de la matière organique puisque c'est le couvert végétal qui va aider à ce stockage de matière organique dans le sol. Donc vous avez ici la carte de France des stocks de carbone organique et puis vous avez la carte de France de la dynamique de perte ou d'augmentation de carbone organique. Le système s'amortit un peu en ce moment sur la perte de matière organique dans les sols, mais il est quand même plutôt en balance négative. Et cette perte de matière organique dans les sols, je vous ai parlé d'érosion, elle va aussi amener des baisses de fertilité de ces sols, puisque sur cette matière organique, les organismes biologiques vont la transformer en matière minérale et faire de la fertilité biologique. Donc si on perd trop de carbone organique, on fait de l'érosion, on baisse la fertilité, on baisse le stockage du carbone et on déstocke beaucoup de carbone qui va dans l'atmosphère avec les problèmes de changement climatique. Justement, face à ces problèmes de stockage de carbone, il y a un fameux effort de guerre qui doit être fait par les sols, et notamment par les sols agricoles, pour augmenter, inverser la tendance par rapport à la perte de matière organique et stocker du carbone. On sait qu'on déstocke à peu près 4,3 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2 chaque année, et que ça vient essentiellement de la déforestation, des activités humaines, des activités agricoles ou des activités aussi industrielles, des transports, etc., etc. On sait qu'on a une capacité de stockage dans les sols, de 1500 milliards de tonnes de carbone. Attendez, j'ai une animation, il faut que je m'en serve. 1500 milliards de tonnes de carbone. Donc on a un stock et une capacité de stockage très importante, bien au-dessus de ce qu'on déstocke chaque année. Donc si, par quelques petites mesures agro-environnementales, on arrive à stocker un peu plus de carbone au niveau du sol, et on estime l'augmentation de ce stockage à 4 pour 1000 par an, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui doit être significatif, surtout sur des dizaines ou des vingtaines d'années, on arrivera à équilibrer la balance entre déstockage et stockage. Bon, ça, c'est un vœu pieux, c'est un calcul un peu mathématique, bien sûr, avec une forte incertitude sur ces notions de stockage, mais comment faire pour arriver à restocker du carbone dans les sols? Ça ne veut pas dire qu'il faut replanter de la forêt partout là où il y a des sols agricoles, parce qu'on a besoin d'agriculture en France, et voilà, on a besoin d'une production agricole, mais on a différentes possibilités. Pardon, là, j'avais pas d'animation. Déjà, ne pas laisser des sols nus, c'est-à-dire que l'image que vous avez qui fait partie des plateaux bourguignons, des sols nus pendant plusieurs mois dans l'année, c'est une hérésie d'un point de vue écologie et d'un point de vue stockage du carbone, on se déstocke. Voilà, il n'y a pas de végétal, il n'y a pas d'absorption de matière organique et en plus, c'est des sols qui sont soumis à l'érosion. Donc ne pas laisser des sols nus au niveau agricole. Et on voit que de plus en plus, le monde agricole est en train de faire des intercultures, des couvertures permanentes, il y a tout un pan de l'agriculture qui va là-dessus. Mais quand vous vous promenez dans les campagnes, on a encore beaucoup de surfaces qui sont nues. Ne pas laisser des sols nus, c'est introduire des cultures intermédiaires. Donc voilà ce qu'on doit avoir, c'est la deuxième photo. Toute l'année, on doit avoir une couverture végétale qui permet de stabiliser et de stocker du carbone et aussi de stimuler la biodiversité des organismes dans le sol. Développer, refaire un peu de remembrement, mettre de l'hétérogénéité dans le paysage, des haies, de l'agroforesterie, on en parle de plus en plus, c'est un peu compliqué l'agroforesterie, surtout quand on a de la mécanisation avec des rampes de 24 mètres, quand il y a des arbres, c'est un peu plus difficile à tourner, mais il y a des choses intelligentes à faire. Et puis aussi, au niveau des prairies, c'est bien, c'est couvert toute l'année, mais on peut aussi avoir des pratiques en allongeant le pâturage ou en mettant de l'hétérogénéité aussi dans les prairies, quand elles sont en rotation, allonger la rotation des prairies par rapport à des des grandes cultures, etc., etc. Il y a des pistes, en tout cas. Il y a des solutions, il suffit de les appliquer et de les faire aussi s'approprier par le monde agricole. Voilà, donc en résumé de cette partie, en quoi la baisse de qualité des sols participe à l'effondrement de nos sociétés? Alors j'avais pris le terme effondrement parce qu'on m'avait demandé de faire une conf sur l'effondrement de la société, qui est programmée pour 2030 d'ailleurs, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, si on baisse la qualité du sol, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui? On a une baisse des rendements agricoles, on a un mauvais support de construction, on a une baisse de la qualité de l'eau, puisque les pollutions qu'on met au-dessus du sol vont se trouver au niveau de l'eau. On a une baisse de notre capacité à réguler les changements, et notamment les changements climatiques. On a une baisse de la qualité des produits alimentaires. Et quelque chose qui est un peu plus imperceptible, mais qui est très important, on a aussi une altération de notre bien-être récréatif, parce que sur les sols se développe le paysage, et en fonction des typologies de paysage, eh bien, on est plus ou moins heureux. Voilà. Dans une ville, notamment, si la ville est totalement bétonnée ou si la ville est un peu verdie, eh bien, on a des citoyens qui sont moins soumis à la dépression. C'est des études de psychologie sociale, j'invente rien. Voilà. Donc il y a aussi le bien-être récréatif qui est porté par le sol et sa capacité à porter un paysage. Donc en global, on alterne notre santé et la qualité de notre environnement. Voilà. Après cette longue introduction, je vais commencer à parler du sujet. Là, vous vous dites, ça va durer 2 heures, on n'est pas encore sorti. Voilà, on va parler de la biodiversité des sols. Et vraiment, on va rentrer là-dedans. Et avec une question peut-être un peu médiatique, est-ce que les sols subissent la 6e extinction, la 5e étant les dinosaures, hein. Si je vous ai mis les tyrannosaures, c'est parce que ce sont eux qui ont subi la dernière extinction au niveau du Crétacé. Je reprends cette planche pour vous remontrer la grande diversité des organismes du sol et puis pour vous donner aussi quelques chiffres. Par exemple, dans 1 gramme de sol, on a 1 milliard de bactéries et 1 million d'espèces. C'est énorme d'un point de vue ressources en biodiversité, c'est aussi énorme d'un point de vue ressources génétiques. Chez les vers de terre, on change un peu d'unité, c'est plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Alors pas dans tous les sols, il y a des sols où il y en a un petit peu moins, voire même il y en a des sols où il n'y en a plus, mais en moyenne, dans un sol de prairie, on peut avoir plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Et puis si on prend un peu la faune intermédiaire en termes de taille, on a globalement micro, méso et macrofaune, 10 000 espèces par mètre carré. Voilà. Donc on est vraiment sur un réservoir de biodiversité très important, à tel point que le sol est reconnu comme étant la 3e frontière biotique de notre planète et qui porte aujourd'hui une estimation à 30% de la biodiversité totale de la planète, en sachant qu'on connaît que 10% des espèces du sol. Et notamment chez les micro-organismes, on en découvre quotidiennement des nouvelles. C'est-à-dire qu'on est bien en dessous des 30% de la biodiversité totale. On est à un chiffre très supérieur quand on aura fini l'inventaire dans quelques années. Là, je vais nous orienter non pas vers la nuit et vers votre sommeil, mais vers la microbiologie des sols. Et si j'ai mis ce fond de nuit étoilée, c'est parce que, en fait, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, dans 1 gramme de sol, on a 1 milliard de bactéries, 1 million d'espèces, un peu moins de champignons parce qu'ils sont un peu plus gros, donc on en met moins dans le gramme, quelques millions de champignons et quelques milliers d'espèces. Et c'est aussi parce qu'Hubert disait qu'il y a plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que dans le ciel. Voilà. On a généralement dans nos galaxies entre 200 et 800 millions d'étoiles dans une galaxie. Et ben, dans 1 mètre carré de sol, on est sur des milliers de milliards de bactéries. Donc voilà, on a une énorme abondance et une énorme diversité au niveau de ces micro-organismes. Alors, s'ils sont là, c'est pas pour faire joli, c'est pas simplement un patrimoine, c'est parce qu'ils ont un rôle et ils remplissent des fonctions. C'est en fonction sur lesquelles, structuration du sol. Ils sont très impliqués dans la structure du sol, voilà, parce qu'ils sont capables de fournir des éléments, des ciments organiques qui vont coller les particules minérales du sol et faire des agrégats. Si on doit retenir qu'une fonction au micro-organisme, c'est la minéralisation de la matière organique. Ce sont les seuls organismes qui sont capables de transformer la matière organique en matière minérale, en azote, en phosphore, en potasse, en soufre, qui est directement assimilable par les plantes. Donc, ils vont faire de la fertilité naturelle. Et l'agroécologie, justement, c'est un petit peu enlever les intrants chimiques, ammonitrates, etc., de synthèse, et compter sur ces organismes-là en mettant de la matière organique pour qu'ils fournissent, pour qu'ils stockent du carbone, mais aussi qu'ils fournissent des éléments minéraux pour la plante. Voilà. Ils sont capables de dépolluer le sol. Il n'y a pas une molécule sur Terre, qui a même été inventée par les hommes et qui n'existait pas, comme le lindane, qui n'est pas dégradable par des micro-organismes et notamment par des bactéries. Même le lindane, elles ont mis 20 à 30 ans à s'adapter à cette nouvelle molécule qui n'existait pas, qui était hyper stabilisée par du chlore, mais elles y arrivent, parce que c'est une source de carbone très importante à un moment donné. Alors on a compté sur elles pour le glyphosate, ça a un peu moins bien marché, c'est aussi parce qu'on en mettait énormément et que la biorémédiation ou la dégradation, la biodégradation qu'on mesure en laboratoire, eh ben, au terrain, in situ, les conditions sont moins optimum et on a des phénomènes d'accumulation. Et puis, il y a tout un pan de ce qu'on appelle aujourd'hui, historiquement, on appelait ça la lutte biologique, maintenant, ça s'appelle le biocontrôle, c'est-à-dire qu'on a des micro-organismes qui combattent d'autres organismes et aussi des micro-organismes qui sont pathogènes. Donc, on peut suppléer à certains pesticides qui combattent des ravageurs par des organismes et des micro-organismes qui sont pathogènes de ces pathogènes. J'aime bien reprendre aussi Louis Pasteur, pour lui rendre toutes ses lettres de noblesse en termes de microbiologie, ce qui disait que si les êtres microscopiques disparaissent dans notre globe, la surface de la Terre sera encombrée de matières mortes et de cadavres de tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Pasteur avait tout à fait compris qu'il y avait une forme de dégradation de la matière organique, déjà par les organismes in situ, même s'il travaillait sur des pathogènes humains plutôt dans le domaine de la santé. L'écologie microbienne, elle est là, et notamment celle du sol. C'est très important, ce cycle de dégradation de la matière organique en matière minérale. Sinon, on accumule la matière organique, on eutrophise le système, et il n'y a pas de fertilité naturelle. Alors, là, j'ai juste un petit film pour vous montrer, pour ceux qui n'en ont jamais vu, des bactéries et des champignons. Alors, je vais l'arrêter. Voilà, les grands filaments, ce sont des champignons microscopiques. C'est grossi à peu près 1000 fois. Et puis, les petits points, les petits cercles, ce sont des bactéries qui ont différentes tailles, et puis qui ont aussi différents niveaux d'excitation. Vous allez voir, bon, celle-là, elle ne bouge pas trop, on va changer de plan. Et là, on voit donc toujours les filaments de champignons. Et si vous regardez bien, je vais remettre, là j'ai fait une pause, vous avez des bactéries qui sont plutôt placides, et puis d'autres qui sont plutôt excitées, qui vont un petit peu dans tous les sens. Je vais remettre. Voilà, c'est aussi des stratégies écologiques différentes. On a des bactéries qui sont un peu colonisatrices, qui sont excitées, qui vont coloniser des environnements nouveaux, qui vont beaucoup déstocker de carbone parce qu'elles vont dégrader la matière organique. Et puis on a des bactéries qui sont plus placides, qu'on appelle des stabilisatrices en écologie, et qui vont, elles, plutôt accumuler du carbone, structurer le sol, etc., etc. Donc on a des écologies différentes. Et si je vous en parle là, c'est parce qu'après, on va y faire référence par rapport notamment à l'impact de certaines pratiques agricoles. Alors, 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de sol, 1 million d'espèces, c'est des grands chiffres, ça, c'est la loi de Poisson. Donc comment on fait pour étudier toute cette diversité quand on aborde une matrice comme le sol ? Alors, on a un peu oublié les outils de Pasteur, parce qu'ils sont toujours d'actualité, notamment la visualisation microscopique ou la mise en culture sur milieu synthétique, mais on se rendait compte que sur une boîte de pétri, on avait simplement 1% des bactéries du sol qui étaient capables de pousser en termes de diversité. Et donc, on est passé très rapidement, enfin depuis une trentaine d'années, à l'ère moléculaire, les experts. On est devenus des experts de l'ADN, et on a des véritables laboratoires de biologie moléculaire, grâce notamment au développement technologique de la santé, hein, qui a développé des outils moléculaires et qu'on a appliqué, nous, en écologie et notamment en sol, pour essayer d'aborder, de cibler et de résoudre cette immense diversité de micro-organismes. Et puis, on a des grands outils. Voilà, on est capable d'extraire presque 80 à 90% de l'ADN microbien d'un sol. Donc après, on le quantifie, on en déduit une quantité de micro-organismes dans le sol. Et puis, ben, les outils de séquençage ont explosé ces 10 dernières années en termes de technologie et en termes de baisse de coûts. Et donc, aujourd'hui, on est capable de séquencer tous les micro-organismes d'un sol et de véritablement aborder des indices de diversité ou l'identification de la plupart des populations microbiennes dans le sol. C'est une petite diapo qui vous montre la chute du coût du séquençage humain de 2000 à 2015. On peut voir que dans les années 2000, le séquençage génome humain, c'était 100 millions de dollars. Avec un consortium international, en France, on a fait 1 ou 2 chromosomes avec le génoscope. Aujourd'hui, c'est 2000 euros. Vous pouvez faire séquencer votre génome, si vous voulez être face à vos certitudes et à vos gènes et à vos défaillances, pour 2000 euros. Je crois que ça ne se fait pas en France, mais ça se fait dans d'autres pays d'Europe. Je vous ai mis aussi cette fameuse clé USB, parce que c'est un prototype de séquençage, enfin de séquenceur, pardon, miniature. C'est le format d'une clé USB. Et voilà, on met l'ADN à un bout et ça séquence. Et bien sûr, on la branche à un ordinateur et ça donne les séquences. Alors, c'est un petit peu caricatural, mais ça veut dire qu'on est en train de miniaturiser et que ces outils de laboratoire vont pouvoir aussi être délocalisés des laboratoires et que peut-être, dans un laps de temps pas trop long, on pourra faire du séquençage au terrain et de l'analyse directe de la qualité microbiologique d'un sol ou de la qualité de l'ADN d'un sol. Et on passera d'indicateur à une notion de capteur, des choses qui seront plus menées en monitoring. Alors, c'est bien beau de dire que la diversité microbienne est très importante, qu'elle remplit des fonctions, mais il faut quand même encore le prouver, surtout qu'on avait 2 concepts en écologie qui s'opposaient. C'était ceux qui disaient qu'il y a tellement d'espèces, même si on en perd la moitié, il y en aura toujours assez pour faire les fonctions. Et puis d'autres, notamment nous, on disait, mais si on baisse la diversité, même de quelques pourcents, ou de 10, 20 ou 30%, et ben cette fameuse redondance de gènes ou de fonctions, elle n'est pas si stable que ça, pas si robuste, et on risque d'avoir une perte de fonctionnement du sol. Et donc, on a fait des expérimentations en laboratoire très artificielles où on a réussi à baisser la diversité microbienne d'un sol de 30% et on a mesuré les fonctions dont je vous ai parlé auparavant. Et si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, donc de 30% les espèces de bactéries et de champignons, on perd 40% de la minéralisation de la matière organique, donc cette capacité à dégrader la matière organique en matière minérale qui donne de la fertilité. Si on fait des tests en pot, et vous verrez un petit film après, 50% de la productivité végétale, c'est-à-dire que certaines plantes ont un retard de croissance végétative de près de 50%. On baisse de 50% la stabilité structurelle du sol, je vais vous montrer un petit slack test en dynamique, et on augmente le temps de survie de pathogènes qui ne sont pas originaires du sol, mais qui se trouvent dans le sol parce qu'on les a amenés par différentes pratiques, d'un facteur 3. Là, c'est l'hystéria monocytogénèse, c'est-à-dire qu'on altère l'effet barrière du sol. C'est un peu comme au niveau du tube digestif, votre flore fait un effet barrière par rapport à des pathogènes qui sont exogènes. Et bien, au niveau du sol, vous avez plein de pathogènes qui arrivent, enfin d'organismes qui arrivent, certains sont pathogènes. Ils ne sont pas originaires du sol, mais ils sont arrêtés par cet effet barrière de la biodiversité quand elle est à son niveau maximum, parce qu'elle occupe les niches et elle est compétitrice pour les ressources. Si vous baissez de 30% la diversité microbienne, et ben, un pathogène comme l'hystéria monocytogénèse, au lieu de disparaître au bout de 5 jours, au bout de 20 ou 25 jours, vous l'avez toujours. Et plus il est longtemps dans le sol, plus il peut trouver une niche, se développer et faire un foyer épidémiologique. Et donc vous avez potentiellement un état sanitaire qui peut altérer. Alors, une petite vidéo pour vous montrer ce fameux slack test en dynamique. Ce sont des modes de sol, voilà, 4 modes de sol. C'est le même sol, mais avec des niveaux de diversité différents. Hop, 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 voilà, je me suis trompé, ça c'est l'autre. C'est assez subtil que pour les lancer. Attendez. Voilà. Et donc, on va immerger ces modes de sol dans de l'eau. Hein. C'est un test qui est vendu aux agriculteurs et qui peut faire sur leurs parcelles s'ils vont comparer deux parcelles, une en travail du sol, l'autre sans travail du sol. Nous, on a fait ça d'un point de vue expérimental au laboratoire. On a des niveaux. Diversité élevée, c'est le maximum de la biodiversité du sol. Diversité microbienne, bactéries, champignons. Moyenne, c'est moins 30%. Faible, c'est moins 50%. Et on a fait aussi un sol stérile, le même sol, mais sans vie microbienne. Le but de la démonstration visuelle, c'est de voir que plus la diversité d'un sol est élevé, plus sa stabilité, sa résistance à la désagrégation dans l'eau est importante. Et donc de la démonstration que cette vie microbienne fournit ces fameux ciments qui structurent des agrégats et qui font que le sol va résister à l'eau. C'est un peu le mimétique d'une grosse pluie sur un sol. C'est-à-dire que si voilà, vous avez un sol avec une diversité faible, et s'il est soumis à une forte pluie, comme vous en avez eu ce matin, et qu'il est en pente, eh ben, le sol va dégringoler en bas de la pente, il ne va pas se tenir. Alors que celui qui a une diversité élevée, il va rester stable d'un point de vue structural et il va être moins soumis à l'érosion. Alors après, le test dure 5 minutes, donc je vais l'accélérer un peu. Voilà, au bout de 4 minutes 21, bah, on a toujours la diversité élevée qui résiste un peu. Et après, le test ultime, c'est de le secouer un petit peu, voilà, de faire des allers-retours dans l'eau. Et au final, la seule motte qui reste un petit peu intègre, il en reste à peu près 30%, c'est quand même assez drastique, et bien c'est la motte de sol qui a la diversité élevée, c'est-à-dire son niveau de diversité optimum. Autre film par rapport à ces fonctions. Donc là, normalement, il doit y avoir du son. Voilà. Là, je me tais et je vous laisse.
Pour apprécier l'incidence des bactéries sur la fertilité des sols, l'INRA a construit une plateforme expérimentale, entièrement automatisée. Le développement des végétaux y est mesuré dans des conditions très contrôlées. L'équipe de Lionel Rangard fait pousser des plants de luzerne dans des pots remplis d'un sol dont elle dose le nombre et la diversité des bactéries.
Au bout de 6 semaines de culture, on voit que dans le pot où on a un sol normal, on a une bonne croissance de la luzerne, et dans un pot où on a une diversité réduite de bactéries, eh bien, on a une croissance beaucoup plus faible de la luzerne.
Et dans ces deux pots, où il semble que la luzerne soit plus développée que dans les deux pots précédents?
Alors, c'est exactement la même expérience, sauf qu'ici, on a arrosé les plantes avec de l'engrais, et donc on a une augmentation de la croissance de la plante liée à l'apport d'engrais, et malgré l'apport d'engrais, on continue à avoir une grosse différence de croissance de la plante avec une plante qui pousse moins là où on a moins d'espèces de bactéries.
L'expérience démontre que les bactéries ont une influence capitale sur la fertilité des sols. Plus ils abritent de bactéries, plus ils sont fertiles, qu'ils aient reçu de l'engrais ou qu'ils n'en aient pas reçu.
Voilà. Bon, c'était un petit interlude pour me permettre de reprendre un peu mon souffle. Voilà, donc ça, c'était un film qu'on avait fait avec Vincent Amouroux qui a été passé sur Arte. C'est un film plus global, hein, d'une heure, qui est d'ailleurs souvent diffusé dans les écoles, sur l'importance de la biologie du sol. C'est très naturaliste, hein. Il n'y a pas que les micro-organismes, on a aussi toute la faune du sol. Il ressort souvent, d'ailleurs en podcast, vous pouvez sûrement le retrouver. Et cette démonstration est très importante parce que même quand on met de l'engrais, si on a un sol qui est moins biodiversifié, la plante va moins bien pousser. On ne connaît pas tous les processus, qui se cachent derrière. Il y a des notions de fertilité biologique, de facilitation, sûrement d'incorporation d'éléments minéraux, d'agrégation aussi de sol au niveau de la racine par rapport à de la réserve hydrique, des choses comme ça, de protection de la plante. Mais en tout cas, il y a vraiment un phénomène de la biodiversité. Et quand en agriculture, on parle de fatigue des sols, malgré le fait que l'on rajoute des engrais, des pesticides, etc., eh ben, on a des baisses de rendement malgré que tous les leviers agronomiques soient activés. Donc cette fatigue des sols, elle est sûrement pour partie d'origine biologique. Voilà, alors en termes de sixième extinction, on va y revenir quand même, on va essayer de répondre à cette question. D'ailleurs, on ne va pas y répondre au final. Alors ça vient d'où la sixième extinction? Ça vient qu'un consortium scientifique à l'échelle internationale montre que depuis 50 ans, on a une perte, enfin depuis 1970 à peu près, on a une perte de 30, 40 à 50% de certaines espèces au niveau terrestre ou au niveau des systèmes d'eau douce ou marine. Donc c'est vrai pour des espèces d'oiseaux, c'est vrai pour des espèces de poissons, etc., etc., dû la plupart à des activités humaines et qui va s'accélérer notamment par un dérèglement climatique. Et donc là-dedans, il n'y a pas le sol, parce que le sol n'est pas référencé. Pourquoi il n'est pas référencé? Parce que dans les années 70, on ne savait pas caractériser la biodiversité du sol, donc on n'a pas de référence aussi historique. Et maintenant qu'on a des outils, parce que la recherche travaille depuis une vingtaine d'années de façon très assidue pour développer des outils de caractérisation des communautés de tous les organismes du sol, globalement, notre T0, ça va être maintenant. Voilà, ce que je vais vous montrer par la suite des référencements à l'échelle nationale. Le T0, ça va être les années 2000 à 2010. Donc on va voir, si ça se trouve, on part déjà avec un certain pourcentage de biodiversité perdue, mais on n'est pas capable de le référencer aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce que je vous disais, depuis les années 2000, nous, on travaille à l'échelle de la France grâce à un réseau qui s'appelle le RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols. C'est 2000 sols échantillonnés sur toute la France, métropolitaine et downtown, avec une maille de 16 km. Et nous, on a récupéré ces sols, on a appliqué nos outils moléculaires, les fameux experts, et on a fourni des cartes de France d'abondance et de diversité des micro-organismes. Donc, abondance des micro-organismes, c'est tout simplement cette quantité d'ADN qu'on extrait du sol. Et puis, diversité bactérienne et les champignons sont en cours de finalisation. Ce qui est intéressant de voir, déjà, enlever un certain fantasme, on a des zones bleues qui sont froides où il y a moins de micro-organismes et moins d'espèces de bactéries, puis des zones chaudes, rouges, qui ont plus de micro-organismes et aussi plus d'espèces de bactéries. Ce n'est pas les mêmes cartes. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'individus qui sont diversifiés. Et ce n'est pas parce qu'on en a peu qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Il n'y a pas de relation linéaire entre l'abondance et la diversité. C'est vrai pour les micro-organismes, c'est vrai pour plein d'organismes du sol et autres au-dessus du sol. Et puis surtout, s'il y a un message qu'on doit retenir, c'est qu'on n'a pas de sol mort. En tout cas, d'un point de vue microbiologique, les sols morts n'existent pas. Ils sont plus ou moins vivants, parce qu'on a des zones plus ou moins chaudes, mais il y a des dénominateurs, des paramètres environnementaux qui l'expliquent, et puis il y a des paramètres dus aux activités humaines. Et si on décrypte un peu plus en détail, c'est sur l'abondance des micro-organismes, donc la quantité de bactéries et de champignons globales, on a tout d'abord un effet sol. Voilà, les sols sableux ont moins de micro-organismes, les sols acides ont moins de vie, ça c'est vrai pour la plupart des organismes vivants. Les sols qui ont moins de matière organique ont moins de vie. Alors là, on touche déjà un paramètre qui est influencé par l'agriculture ou par l'usage des sols agricoles ou autres. C'est qu'en agriculture, quand on travaille le sol, quand on couvre mal ces sols, on déstocke de la matière organique. Ce qui fait que quand on regarde les modes d'usage, eh bien, c'est dans les prairies et les forêts qu'on a le plus de micro-organismes, parce que globalement, si vous vous rappelez la carte du carbone, eh bien, globalement, c'est dans les sols où on a le plus de matière organique, où on a le plus de micro-organismes. Tout simplement, le frigo est plein, donc il se développe. Si on regarde la diversité, et pour expliquer cette carte de France, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est une maille quand même relativement grossière, on a aussi là un effet sol. Voilà. Mais si on regarde le mode d'usage, on a la séquence inverse de l'abondance des micro-organismes. C'est-à-dire que c'est dans les sols agricoles, les vignes, les vergers, les grandes cultures, où on a le plus d'espèces de bactéries par rapport aux sols qui sont sous des systèmes naturels ou semi-naturels, comme les prairies, les forêts. Donc c'est l'inverse de la quantité. Là, dans la quantité de micro-organismes, on voit bien que les pratiques agricoles sont agressives, qu'elles font une perte du nombre d'individus. Par contre, ces pratiques agricoles, elles ont l'air de stimuler la diversité des bactéries. Et ça, on s'explique très facilement en écologie. Enfin, de toute façon, on a des théories pour toutes les hypothèses. C'est que chez les bactéries, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont des micro-organismes, certains sont placides, d'autres sont un petit peu excités. Et quand on perturbe l'environnement, eh ben les bactéries qui sont un petit peu excitées, ça les excite encore plus et elles créent de la diversité, elles se multiplient et elles créent des espèces. Alors créer des espèces, ça fait un peu créationniste, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, on a une augmentation de la diversité dans ces sols par de la perturbation. Alors que la plupart des autres organismes, soit dans le sol, soit au-dessus du sol, sont altérés par la perturbation. Donc, on a un effet bénéfique des systèmes agricoles sur la diversité des bactéries si on regarde juste le nombre d'espèces. Mais justement, on a voulu aller un peu plus loin que ce nombre d'espèces. Et on a développé, alors pas nous, hein, mais à l'échelle internationale, depuis une dizaine d'années, on développe des notions de réseau. On regarde comment ces espèces dans une communauté sont en réseau. Et je vous ai mis un réseau social, voilà, pour vous montrer que c'est pareil. Et d'ailleurs, toute cette part de l'écologie qui existe depuis plus d'un siècle a été revivifiée, notamment par les réseaux sociaux et les développements mathématiques qu'on a eu dans ces réseaux sociaux pour voir qui communique avec qui, quelle est la communauté qui est très dynamique, qu'est-ce qu'elle pense, etc. On n'en est pas à savoir ce que pensent les bactéries. Et donc, on applique maintenant cette métrique sur les communautés de bactéries. On va regarder quels sont ces réseaux à l'intérieur des communautés de bactéries. Et on part du principe écologique que plus un réseau est complexe, plus les bactéries interagissent les unes avec les autres, donc plus on va avoir un fonctionnement biologique efficace et stabilisé. Alors, voilà le réseau à l'échelle totale du RMQS. Il n'y a pas un intérêt énorme. Les petites boules, ce sont des grands taxons, voilà, ou des grands groupements d'espèces. Et puis les traits verts et rouges, ce sont les interactions que ces taxons ont entre eux. En vert, ce sont des liens positifs. En rouge, ce sont des liens négatifs. Positifs, c'est-à-dire qu'ils coopèrent. Négatifs, c'est qu'ils sont un peu antagonistes. Ils sont peut-être, voilà, ils vont être en compétition pour une ressource trophique, ou il y en a un qui va tuer l'autre par rapport à des biocides. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de le regarder à l'échelle de la France, c'est de comparer les réseaux en fonction des modes d'usage. Et si vous vous rappelez, on a une augmentation de la diversité bactérienne quand on passe des sols de forêt, prairies, grandes cultures à vignes, une augmentation progressive qui est assez robuste. Et si on regarde les réseaux, ben voilà la complexité des réseaux qu'on a en forêt et en prairies. On a des réseaux relativement denses, hein, très complexes, donc des communautés qui interagissent bien. Et si on regarde dans les grandes cultures et encore pire en vignes, on a un réseau qui se décomplexifie avec un système de satellites, voilà, le réseau éclate, et on a des petits satellites qui apparaissent, et dans lesquels on a quelques populations bactériennes qui sont déconnectées de la communauté, qui ne sont plus en interaction avec la communauté. Donc on a bel et bien une augmentation de la diversité qui potentiellement nous donnait plus d'interactions, puisqu'on avait plus d'espèces, et bien non. L'augmentation de la diversité dans les sols agricoles, elle est combinée avec une baisse de la complexité des réseaux d'interaction. Et potentiellement, l'hypothèse, hein, maintenant il faut qu'on arrive à démontrer ça, mais il y a une forte hypothèse, si ces réseaux sont moins complexes, c'est que les bactéries coopèrent moins entre elles, et donc ben, les grandes fonctions environnementales, minéralisation de la matière organique, structure du sol, etc., vont moins bien, enfin, être moins efficaces au sein de ces réseaux. Autre piste pour essayer de regarder, de voir en quoi cette augmentation de diversité peut être bénéfique ou non, on est capable aujourd'hui de relier des noms de taxons, des noms d'espèces, à leurs attributs écologiques, à ce qu'ils sont capables de faire dans le sol. Alors aujourd'hui, c'est assez grossier. Donc on regarde la diversité entre les cultures, les prairies et les forêts. On n'a pas pris les vignes parce qu'on n'avait pas assez de sol et ce n'était pas assez robuste. Et donc on est capable aujourd'hui, rien qu'en regardant l'inventaire des espèces dans notre communauté, alors c'est des logiciels assez complexes, de regarder ceux qui sont saprophytes. Donc saprophytes, c'est ceux qui dégradent la matière organique et qui vont faire des matières minérales pour la fertilité. Ceux qui sont symbiotiques. Symbiotiques, c'est ceux qui rentrent en symbiose avec la plante et qui améliorent aussi la fertilité de la plante ou sa nutrition. Et puis ceux qui sont pathogènes, ça, on sait, les pathogènes, ceux qui vont être néfastes ou délétères pour l'hôte. Et si on regarde les tendances, ben, ce que l'on voit, c'est qu'on a une baisse des saprophytes quand on va de la forêt à la grande culture, ce qui n'est pas totalement illogique, puisqu'on baisse la teneur en matière organique dans le sol, donc il y a moins d'organismes qui vont être impliqués dans sa dégradation. Mais surtout, on augmente le taux de pathogènes dans les sols de grande culture en comparaison des forêts et des prairies. C'est-à-dire que cette augmentation de diversité bactérienne que l'on voit dans les sols agricoles, non seulement les bactéries deviennent opportunistes, celles qui sont stimulées sont opportunistes, elles ne travaillent pas en interaction à l'échelle de la communauté, et en plus, dans ces opportunistes, on a des pathogènes. Ce qui va bien d'ailleurs dans la définition écologique du pathogène, hein, ce sont des germes opportunistes qui vont coloniser un hôte. Voilà. Donc, plus de diversité dans les sols agricoles, c'est un point positif d'avoir plus de diversité, mais quand on regarde un peu, quand on essaie de décrypter derrière cette diversité, eh ben on a des réseaux moins complexes et des populations qui sont potentiellement plus pathogènes. Je vais revenir sur mes cartes de France et je ne vais plus parler d'écologie, mais je vais parler plus d'indicateurs et de diagnostics parce qu'on a fait des très belles études sur l'écologie des micro-organismes à cette échelle-là. Quand on est à grande échelle, on parle de biogéographie avec des concepts, voilà, quels sont les paramètres de l'environnement qui structurent la distribution de nos communautés. Mais ces jeux de données d'abondance et de diversité microbienne à l'échelle de la France, dans autant de sols, avec toute la représentativité des types de sols en France, des modes d'usage, des paramètres climatiques, géomorphologiques, ça fournit aussi des référentiels d'interprétation. Et les outils que sont l'abondance microbienne et la diversité bactérienne par les outils moléculaires deviennent non plus des outils de recherche, mais des indicateurs. Et quand on parle d'indicateurs, c'est le but, c'est de faire un diagnostic, et ce diagnostic qui soit utile pour les usagers du sol, que ce soit les agriculteurs, les jardiniers, les aménageurs urbains, enfin tous ceux qui ont un intérêt à regarder la qualité de leur sol. Et c'est ce que l'on a fait grâce à ces gros jeux de données. On a défini alors des modèles prédictifs, je ne rentre pas dans les détails, mais un diagnostic où on est capable, pour un type de sol donné, d'avoir une valeur de référence d'abondance et de diversité microbienne. Et après, voilà, donc on a un curseur, notre valeur de référence est là, et après on va positionner, c'est comme une analyse de sang. Vous devez être dans telle gamme parce que vous êtes un homme qui a tel âge, avec tel mode de vie, et si vous êtes en dehors de la gamme, au-dessus ou en dessous, eh ben, on essaye d'interpréter si c'est grave et à quelle pathologie ça peut être associé. Eh ben, c'est pareil, aujourd'hui on a développé un diagnostic avec cette valeur de référence. Si on est au-dessus de la valeur de référence, c'est-à-dire si la valeur mesurée est au-dessus de la valeur de référence, eh ben, ça veut dire que le mode d'usage du sol va stimuler l'abondance ou la diversité. Et si on est en dessous, eh ben, le mode d'usage, les pratiques agricoles ou urbaines ou si c'est un jardinier, elles vont altérer l'abondance et la diversité des micro-organismes du sol. Et puis on a mis ce seuil critique à moins 30% parce que ça correspondait à nos expérimentations, on faisait des dilutions de diversité et on voyait une chute du fonctionnement biologique. Alors ça, on l'a appliqué. À partir du moment où on a eu des outils de diagnostic, ben on s'est rapproché non pas des chercheurs, non pas des politiques publiques, ça c'est après, mais des agriculteurs. Alors on est à l'INRA et on a développé des projets qu'on appelle des projets de sciences participatives où on est directement allé travailler avec les agriculteurs. On sortait un peu de notre zone de confort pour tester ce diagnostic. Déjà, est-ce que ça leur parlait? Est-ce que ça les intéressait? Et quelle était sa sensibilité par rapport à des pratiques qu'appliquaient les agriculteurs? Alors, on avait testé avant sur des sites expérimentaux, mais la réalité de terrain, elle est chez les agriculteurs. Et donc, on a développé un projet qui s'appelait Agrinov, où on a travaillé directement entre chercheurs et agriculteurs. On a défini un réseau d'agriculteurs de 250 agriculteurs à l'échelle de la France, moitié en grande culture, moitié en viticulture. On a développé des formations sur la biologie des sols, sur ses indicateurs. On a validé et appliqué le tableau de bord. Nous aussi, on a beaucoup appris, hein, parce que les sciences participatives, ça va dans les deux sens, c'est des échanges de savoir sur leurs pratiques, leur façon de travailler, leurs questionnements aussi. Et puis, on a sorti des grandes tendances. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la grande tendance, c'est que sur ces 250 parcelles agricoles et viticoles, quand on appliquait un tableau de bord, alors, il y avait de la microbiologie, mais il y avait aussi des vers de terre, des nématodes. Il n'y avait pas que des micro-organismes. Et on avait des indicateurs pour ces autres organismes. Synthétiquement, on n'avait que 10% des parcelles qui étaient dans le rouge, c'est-à-dire totalement dépréciées en diversité, en biologie du sol. Et on avait 30%, un peu plus de 30% des parcelles qui étaient dans le vert. Donc tout va bien. Mais, donc ça veut dire que les sols agricoles ne sont pas morts. Ça aussi, hein, les sols français ne sont pas morts. Et après, si on regarde les sols agricoles, ils ne sont pas morts non plus. Parce que certaines personnes qui ont des analyses un peu au doigt mouillé disent à tous les médias ou tous ceux qui montrent que les sols agricoles sont morts. Non, les sols agricoles ne sont pas morts, mais il y a quand même plus de 50% qui sont dans l'orange. L'orange, c'est entre la valeur de référence et le seuil critique, c'est-à-dire c'est la zone où on commence à être un petit peu altéré, un petit peu malade, mais on n'est pas encore avec une pathologie lourde, quoi. Et donc, il faut... Mais il y a quand même la moitié des parcelles, un peu plus de la moitié des parcelles agricoles que l'on a référencées, qui sont dans l'orange. Donc, les sols agricoles ne sont pas morts, mais ils sont toutefois à surveiller. C'est-à-dire que cet orange, il n'est pas critique, mais il faut le faire passer dans le vert. Et là, il faut améliorer les pratiques pour qu'on améliore la qualité biologique du sol. Autre résultat intéressant sur ces sciences participatives, c'est que 97% des agriculteurs sont allés jusqu'au bout des processus. Au début, quand on faisait nos réunions d'information, ils n'avaient jamais le temps, ils avaient un vrai métier. Et au final, ils ont tous suivi jusqu'au bout et ça leur a pris plusieurs jours de travail et d'implication. Et ils ont même créé des sous-réseaux d'agriculteurs pour répondre à ce projet et continuer après la dynamique. Et puis surtout, autre résultat super intéressant, on avait présenté ça à Stéphane Le Foll quand il était encore aux affaires, c'est que dans ce projet, 59% des agriculteurs ont commencé à changer leurs pratiques. Et ça, quand vous faites des injonctions ministérielles, etc., ça ne marche pas, il y a 3% des agriculteurs qui suivent. Quand vous faites des projets de sciences participatives, vous expliquez aux usagers du sol, agriculteurs ou autres, à quoi ça sert, que vous écoutez leurs besoins, leurs questionnements, et que vous essayez de combiner tout ça avec des outils qui répondent à ces besoins, et bien les agriculteurs, tout seuls, ils changent leurs pratiques. Et c'était des pratiques de couverture du sol, de réduction du travail du sol, et de commencer aussi à prendre des risques sur une baisse de produits pesticides. Alors, avec ces projets de sciences participatives, mais aussi d'autres projets plus expérimentaux, on a commencé à regarder un petit peu l'impact des pratiques agricoles sur la qualité biologique du sol. Ce qu'on se rend compte, s'il y a bien une pratique, la plus délétère des pratiques, vous allez me dire, c'est les pesticides. Eh bien non, les pesticides sont toxiques pour les organismes vivants du sol, comme ils le sont pour nous. Mais la pratique la plus délétère pour les organismes vivants du sol, c'est le travail du sol. Et ce qu'on appelle le labour traditionnel, où on retourne le sol, on casse les macrostructures, on casse les agrégats, on tasse le sol, on enlève les vides, etc. Tout ça, c'est hyper délétère. C'est comme si vous détruisez une maison à un habitant. Ben, généralement, il meurt tout de suite ou il fuit, quand il a la capacité de fuir. Donc le labour est très délétère pour l'abondance des micro-organismes et il est délétère pour la diversité, même si on a mis encore un pouce vert, parce qu'il stimule la diversité des bactéries, puisqu'on a plus d'espèces dans les sols agricoles, et c'est notamment dû à une perturbation due au labour. Mais vous avez vu que ça, c'est modulé par le fait que, même si j'ai plus d'espèces, j'ai des réseaux qui sont moins complexes, et surtout, j'ai plus de pathogènes dans mes espèces. Donc on a une augmentation de diversité, ça reste vertueux, mais cette diversité, elle n'est pas très bénéfique. Augmenter la diversité des rotations, c'est hyper important pour la biologie du sol, parce que si on met de la diversité végétale au-dessus du sol, on mettra de la diversité végétale en dessous du sol. Si on réduit le travail du sol, on va augmenter aussi la couverture des sols, pas de désherbage mécanique, etc. Les engrais chimiques, globalement, ils sont mauvais, ils sont surtout neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet, mais en comparaison d'engrais organiques, c'est-à-dire d'apports de matière organique, ils sont bien moins efficaces, bien moins stimulants pour l'abondance et la diversité des micro-organismes. Et puis, les pesticides, ils sont toxiques, ça c'est clair. Certains sont toxiques, on ne va pas remettre ça en cause, c'est des tests d'écotox au laboratoire, etc., etc. Mais vous allez voir par la suite que l'agriculture bio, comme elle est définie en termes de cahier des charges, n'est pas obligatoirement très vertueuse pour la biologie des sols. Et ça, je vais y venir tout de suite, parce que ici, vous avez l'exemple d'un diagnostic de cette qualité microbiologique des sols agricoles, avec plein de parcelles, donc tous les petits curseurs noirs, ce sont des parcelles différentes, qui sont positionnées pour l'abondance et pour la diversité, en fonction de la valeur de référence et le seuil critique. Vous voyez qu'il y a une majorité de parcelles qui sont dans le vert, il y en a un certain nombre qui sont dans l'orange, pour les deux indicateurs, et puis, surtout pour l'abondance microbienne, on en a un certain nombre aussi qui sont dans le rouge, mais vous voyez que ce n'est pas la majorité des parcelles qui est dans le rouge. Ça, c'est un paysage agricole à côté de la Bourgogne, et c'est un paysage de grande culture relativement intensive. Et dans ce paysage, il y a quelques bios. Et les bios, on les a positionnés. Et bien, les bios, ils sont un peu partout. C'est-à-dire que des fois, ils sont bons, des fois, ils sont moyens, puis des fois, ils ne sont pas bons. Pourquoi ? Donc, c'est ce qu'on met, le bio, il n'est pas si écolo, ou le bio, il n'est pas si bon. Pourquoi ? Parce que souvent, les bios, ils réduisent les pesticides, c'est très bien, mais ils augmentent le travail du sol parce qu'on fait du désherbage mécanique, du fait qu'on n'a plus de glyphosate ou plus d'herbicides, etc., etc. Et ce désherbage mécanique, c'est un travail du sol, c'est une perturbation du sol, et ça altère beaucoup l'abondance et la diversité des micro-organismes. Alors, si on essaye de faire une synthèse de ce que le monde agricole pourrait faire, avec des courants agricoles qui sont en train de se développer, on a un courant dans l'agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation, qui est là pour justement conserver, quand ils parlent de conservation, c'est la conservation des sols. Ils prônent le non-labour. Ils ont vendu leur charrue, ils ont encore du tracteur, mais ils n'ont plus de charrue. Et donc, il n'y a plus de labour, il y a une couverture permanente des sols avec une très bonne diversité de la rotation. Ça, c'est le côté vertueux de l'agriculture de conservation. Le pendant de ça, qui est un peu moins vertueux, c'est qu'ils continuent souvent à utiliser des engrais chimiques. Et puis, ils ne sont pas bio. Donc, ils utilisent, généralement, quand leur interculture, ils doivent l'éliminer pour faire place à la culture, eh ben, ils mettent du glyphosate encore, ou des herbicides, parce que les méthodes mécaniques, ou des fois, ils mettaient des espèces gélives, mais ça ne marche plus, ils ne gèlent plus en France, ou de moins en moins. Donc, on a toute cette agriculture de conservation qui a des caractères vertueux sur certaines pratiques et pas sur d'autres. Et puis, on a le bio, en face, qui, lui, continue d'utiliser fortement tout ce qui est travail du sol, la mécanisation pour la perturbation physique du sol, qui utilise beaucoup de matière organique parce qu'il n'a pas le droit aux engrais chimiques, aux engrais de synthèse, et qui n'utilise plus de pesticides. Et ben, la chose naïve à dire pour un écologue comme moi, c'est de dire, et ben voilà, l'amour est dans le pré, il faut marier les deux. Il faut faire de l'agriculture de conservation en bio ou du bio en agriculture de conservation. C'est ce que fait le monde agricole, mais ça paraît simple comme ça sur la diapo ou sur le papier, et c'est hyper technique en termes d'itinéraire technique. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, mais en tout cas, quand vous discutez avec les agriculteurs, ils essayent, hein, ils ont analysé ça depuis longtemps, les agriculteurs, surtout après en discutant, en étant à l'écoute de ce que la recherche peut amener comme nouvelles données, et ben, c'est hyper technique de réduire le travail du sol et de réduire les pesticides en même temps. Voilà, on a des problèmes de couverture, d'infection, de maladies, de choses comme ça. Le couvert végétal va créer aussi certains microclimats qui vont permettre à des pathogènes. Et comme on n'a plus de pesticides de synthèse hyper efficaces, on a du mal à combattre ces pathogènes. Enfin, je ne suis pas agronome, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est de l'avenir de l'agriculture par rapport à l'impact des pratiques. Toutefois, techniquement, c'est encore assez compliqué. Voilà, je vais garder un petit peu de temps de parole pour passer, non pas dans du monde agricole, mais pour passer dans les mondes urbains, parce qu'il y a des sols aussi en ville. Et on s'en inquiète de plus en plus, notamment par rapport à ces processus d'artificialisation, d'imperméabilisation des villes. Et donc, on commence à avoir des études qui étudient la biodiversité à l'intérieur des villes et au niveau des sols urbains. On parle, parce qu'il y a aussi toute une dynamique politique de faire du retour de la nature en ville, du verdissement des villes. Et à un moment, il faut bien du sol pour mettre les plantes, même si on fait des murs ou des toits végétalisés. On a encore un petit peu de sol et on a envie d'avoir des jardins publics. Alors, L'écosystème urbain, c'est un écosystème qui n'a rien à voir avec l'écosystème agricole, ça on s'en doute bien. Déjà, il y a des modes d'usage qui sont très contrastés, des systèmes imperméabilisés avec des terrains de sport qui sont hyper aussi artificialisés, et puis des pelouses le long des routes avec des arbres d'alignement, des jardins publics, même des fois des petites forêts assez naturelles. Voilà. Donc on a vraiment plein de modes d'usage très différents, beaucoup plus différents que ce qu'on rencontre en agriculture. On a des changements hydrologiques très importants parce qu'il y a des phénomènes de ruissellement, il n'y a pas suffisamment de surface de sol pour absorber toute l'eau. On a des îlots de chaleur urbaine, une augmentation de la température en ville, et ça, on le vit de plus en plus chaque année avec notamment voilà, des températures très importantes en période de canicule qui sont exacerbées par le côté bétonné des villes et microclimat. Et puis aussi, d'un point de vue un peu plus écologique, on a une mosaïque urbaine qui est très complexe, avec des sols qui sont assez discontinus et séparés les uns des autres. Et ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue écologie, parce que c'est un peu comme des îles qui sont séparées, avec une évolution qui se fait au niveau de chacune des îles, qui est particulière à l'île. Et on pourrait imaginer que ces sols sont des îles particulières qui ont leur propre biodiversité. Cette biodiversité va évoluer dans son coin et de façon différente du sol qui est à 500 mètres et qui est séparé par du béton ou un immeuble, etc. Bon, ça c'est de l'écologie, on va le mettre un peu de côté. Et puis aussi un constat qu'on fait de plus en plus dans les villes, qu'on avait un peu oublié, mais historiquement les villes, elles avaient des industries à l'intérieur des villes, qu'elles soient des industries chimiques, métaux lourds ou pétrolifères. Et on redécouvre de plus en plus que quand on avait enlevé ces industries, on a fait des friches industrielles. Maintenant, généralement, on ouvre ces friches industrielles pour faire des jardins partagés, des jardins associatifs. Et on se rend compte que ces jardins, ces sols, sont blindés de polluants et notamment de métaux. Donc au bout d'un ou deux ans, on commence à doser les métaux dans les légumes, etc. Et on revient en arrière sur l'ouverture des jardins partagés où on dit aux gens de ne pas consommer leur production parce qu'on a des gros problèmes de contamination métallique, beaucoup plus que dans les sols agricoles. Donc voilà les particularités des systèmes urbains. Autre particularité, c'est un peu une thématique orpheline, la biologie, même la qualité des sols dans les villes, puisque 3% de la littérature scientifique sur les sols et même sur la biologie des sols concerne les sols urbains. Donc on est vraiment au début d'une thématique de recherche. Tout est à découvrir, même si on a déjà quelques petits résultats. Et voilà les quelques petits résultats. Bon, je vous présente les vers de terre, ce n'est pas ma spécialité, mais on a fait une petite référence. Il y a des vers de terre dans les systèmes urbains. Ça va de très faibles densités à des très fortes densités, et vous avez une augmentation des vers de terre en fonction des modes d'usage urbain. Et vous voyez que quand on est sur des bords de route, des zones résidentielles dues à des pratiques de tassement, de passage, de pollution, de tonte, on a peu de vers de terre. Et quand on va sur des systèmes un peu moins perturbés où on fait des apports de matière organique, donc des jardins urbains, des forêts, on a une abondance et diversité de vers de terre qui est relativement intéressante. Sur les micro-organismes, une tendance globale, c'est qu'on a moins de micro-organismes dans les sols urbains que dans les sols agricoles ou à l'extérieur des villes, agricoles, naturels et autres. Bon, il y a un chiffre moyen qui est de 56%, mais il ne veut pas dire grand-chose. Il y a une incertitude importante. Et on a aussi commencé à classer par la biblio, pas par des études, en fonction des modes d'usage, l'augmentation de quantité de micro-organismes. Et on peut voir que dans les bords de route, les zones résidentielles, les toits végétalisés, ce n'est pas vraiment du sol, mais il y a quand même de la vie dedans. On a peu de micro-organismes, et quand on va sur des systèmes jardins urbains, parcs urbains, forêts urbaines, où on a des apports de matière organique, où on a de la diversité végétale, on a des abondances et diversités microbiennes qui sont assez intéressantes. Dernier petit exemple sur les systèmes urbains. On a travaillé, alors là, ça c'est des résultats propres, sur les toits parisiens avec Nature Paris, maintenant ça s'appelle IAU Île-de-France. Ils voulaient référencer quelques toits parisiens pour savoir la biologie de leur sol dans ces toits. Alors certains toits c'est de la terre, d'autres c'est de la pouzzolane avec de la matière organique, donc rien à voir avec un sol, mais ça fait un substrat pour le végétal. Et le but c'est de voir si on avait de l'abondance et de la diversité microbienne. En termes d'abondance, voilà comment se situent tous les toits parisiens. Et ici, vous avez les deux lignes qui sont les moyennes nationales chez les prairies et les forêts d'abondance microbienne. C'est-à-dire que dans les toits parisiens, quel que soit le substrat, l'âge du toit, la hauteur aussi du substrat et la couverture végétale, on a une abondance microbienne qui est relativement importante, autant que dans des prairies et des forêts en dehors des systèmes urbains. Bon, c'est des chiffres très grossiers et très caricaturaux, mais en tout cas, il y a de la vie sur les toits parisiens. Et il peut y avoir une écologie et il peut y avoir des fonctions et des services remplis par ces toits parisiens ou par tous les sols urbains en général. Alors, pour finir un peu sur ces grands modes ruraux et agricoles, on a deux grands types de sols, les sols agricoles, les sols ruraux, et puis les sols urbains. Et ils sont soumis à des perturbations. Ils doivent faire l'effort de guerre aussi pour le stockage du carbone, la mitigation des gaz à effet de serre et des changements climatiques. Et donc, on a deux dynamiques qui se développent. Dans le monde agricole, on appelle ça la transition agroécologique. Je vous en ai un petit peu parlé. Et puis, dans le monde des villes, on appelle ça le retour de la nature en ville. Et les sols et la biodiversité du sol a un rôle très important à jouer, aussi bien dans cette transition agroécologique que dans le retour de la nature en ville, parce que qui dit retour de la nature dit végétalisation, et le support, c'est le sol. Pour finir, si j'ai encore 5 minutes, voilà, c'est bien beau de dire on fait mal, il faut faire ça, etc. Mais au-delà d'identifier les solutions et les problèmes, comment faire changer les pratiques ? Parce que c'est important aussi qu'on change tous de pratiques, notamment sur considérer le sol, la biologie du sol, et l'intégrer dans les politiques publiques, dans les politiques agricoles, etc. Et donc la première piste, j'en ai déjà un petit peu, c'est impliquer les usagers. Alors, les usagers, ça peut être un agriculteur, un jardinier, un gestionnaire de parcs naturels, mais aussi les citoyens, plus globalement, dans les projets de recherche. Et c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Je vous en ai donné un petit exemple avec le projet Agrinov, et on voit que les agriculteurs qui adhèrent, ils commencent à changer de pratique en réfléchissant eux-mêmes, entre eux, avec nous, et à faire évoluer leur pratique et à faire des prises de risques et à tester ce que ça donne après en termes de rendement, parce que bien sûr, il faut aussi garder une marge économique. Il y a un organisme en France qui est hyper fort là-dessus, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui développe énormément de sciences participatives sur les papillons, sur les oiseaux, sur tout ce qui peut être observé par les citoyens. Toutefois, même au niveau des écoles, il n'y a pas grand-chose sur le sol. On a besoin de développer ces projets de recherche participative sur les sols agricoles, sur les sols urbains, avec des organismes comme le Muséum, qui ont des sociologues, parce que là, on tombe dans les sciences humaines. Nous, on a les sciences dites dures, biologie, etc. Mais il faut aussi travailler avec des sciences humaines et de la sociologie pour développer ces projets. La deuxième piste, c'est l'éducation et la sensibilisation. Alors ça, c'est hyper important. C'est mettre la biodiversité, mettre les sols dans les programmes scolaires, très jeunes. Et là encore, le Muséum fait un travail avec Vigie Nature École, etc. Mais c'est à la bonne volonté des enseignants du secondaire, notamment, et même du primaire. Donc là, il faudrait, d'un point de vue politique publique, remettre des enseignements, enfin les mettre, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient existé un jour à ce niveau-là, très tôt, dès les primaires, dès les secondaires. Et puis, ce qui peut paraître paradoxal, aussi au niveau des techniciens agricoles et des écoles d'ingénieurs agronomes, parce que quand vous regardez biologie du sol, et nous, dans notre équipe, on a des maîtres de conf à Grossup Dijon, c'est saupoudré encore la biologie du sol. Tout le monde parle de la transition agroécologique, mais personne ou peu de gens parlent de la biologie du sol. Or, on peut voir que c'est un bras de levier assez important pour cette transition-là. Et puis, le rôle des chercheurs pour sensibiliser les citoyens, c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir, des conférences, aussi parler aux médias, occuper aussi un espace médiatique qui est souvent occupé par des gens qui n'ont pas de rationalité ou qui ne sont pas ancrés dans la recherche ou dans la science et qui, des fois, ont des discours un petit peu légers et rapides. Et puis, troisième piste, qui n'est pas inintéressante et qui commence aussi à frémir, c'est une piste juridico-foncière. Ça veut dire quoi ? C'est légitimer une valeur qualité du sol, et dans la qualité du sol, il y a la qualité agronomique, mais il y a la qualité aussi biologique, pour orienter les politiques publiques. Et donc, premièrement, développer des outils juridiques pour intégrer la qualité des sols dans les SCOT, les PLU, les documents d'urbanisme. Si on a un sol de bonne qualité, on ne l'imperméabilise pas, on ne fait pas d'extension urbaine quand on a des sols de très bonne qualité. Et autour des villes, on n'a que des sols de bonne qualité, puisque historiquement, les villes se sont mises dans des régions où on pouvait faire de l'agriculture tout de suite autour pour nourrir la population de la ville. Donc la plupart des villes qui s'étendent sur des très bonnes terres agricoles. Donc il faut rentrer véritablement de la réglementation sur cette qualité biologique, agronomique des sols et améliorer les SCOT et les PLU et les documents d'urbanisme. Et puis aller même plus loin et mettre en place une plus-value foncière sur la qualité des sols, incitative, pas que ça soit coercitif, c'est-à-dire qu'un sol de bonne qualité vaut plus cher qu'un sol de moins bonne qualité. Et c'est aussi valoriser le travail de celui qui a utilisé le sol, si c'est un agriculteur, c'est qu'il a développé des pratiques qui lui donnaient un certain rendement, parce que la qualité des terres agricoles, elle est basée sur le rendement, mais en plus, qui donnait une forme de durabilité parce qu'il n'altérait pas la biologie et la qualité globale de son sol. Donc cette plus-value foncière, elle est très intéressante. Ça peut paraître un peu fumeux, mais en fait, nous, on commence à être démarchés par des notaires qui viennent nous voir et qui ont cette idée-là, dans les échanges, les successions, de donner une notion de qualité du sol dans les plus-values foncières. Et tout ça, aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a des outils, on a des indicateurs, on a des diagnostics qui sont capables de rendre compte, comme vous avez sur les frigos, les A, B, C, D, A+, etc. On peut avoir ces mêmes curseurs au niveau de la qualité des sols, avec des choses qui sont encore perfectibles, mais des choses qui sont déjà aussi opérationnelles. Ce qu'il faut retenir en tout, j'ai fini. C'est le sol, le principal réservoir de diversité de notre planète. Et encore, on est loin de tout connaître dans ce réservoir et de cette biodiversité. Il fournit des fonctions très importantes pour nos sociétés, alimentation, climat, dépollution, bien-être aussi, de façon un peu plus nouvelle. Les sols français ne sont pas morts, ils pourraient être plus vivants, ils pourraient aller mieux, mais en tout cas, ils ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'on n'a pas passé une sorte de ligne rouge où c'est fini, il n'y a plus rien et on ne va plus rien en faire. Non, il faut adapter nos pratiques et améliorer nos modes d'usage pour améliorer la qualité des sols agricoles et urbains. Et puis, urbanisation ne veut pas dire obligatoirement zombification, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on est en ville qu'il n'y a pas de vie, ou il n'y a qu'une vie artificielle, non, il y a de la vie qui recolonise, surtout chez les micro-organismes qui sont capables de coloniser tous les environnements. Et puis, ben, un peu pour nous, la recherche avance, elle avance même relativement vite, techniquement et dans sa production de connaissances, mais il faut aussi relativement vite, et plus vite qu'on le fait aujourd'hui, transformer nos connaissances en pistes éducatives et en pistes d'action publique, de politique publique, pardon, rapidement, parce qu'il faut que ce transfert soit beaucoup plus efficace, parce que le monde agricole ou le monde des gens qui utilisent le sol ou la société en général a besoin de solutions par rapport à des urgences environnementales. Donc en conclusion, jusqu'ici tout va bien, on verra plus tard, mais en tout cas il faut prendre ces pistes-là pour essayer d'infléchir les courbes. Et pour finir, je vous recommande, parce que je suis à la base de l'auteur avec un de mes collègues qui est dans la salle, des ouvrages. Il y en a un qui est assez technique sur la microbiologie moléculaire pour le diagnostic environnemental. Donc c'est un peu les outils qu'on a développés qui servent à faire des diagnostics sur la qualité des sols. Il y a aussi des matrices comme l'eau, les déchets et même l'atmosphère, où on a véritablement du diagnostic microbiologique, de qualité microbiologique de ces différents environnements. Donc un ouvrage qui a été demandé par l'ADEME et auquel on a participé. Et puis, un peu plus, donc, paru il y a 2 ans, je crois. Et puis, un ouvrage un peu plus naturaliste, qui est l'Atlas français des bactéries du sol. Cette belle carte de France que je vous ai montrée sur la biomasse microbienne, sur la diversité des bactéries, etc. On en a fait un atlas, comme on avait des atlas des sols dans le monde, etc. Voilà, donc, il est dans toutes les bonnes librairies scientifiques. Et c'est un ouvrage un peu plus naturaliste. Voilà, je vous remercie de votre attention.